Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Deuxième fin de semaine de juillet 2024. Ici Alex Bergeron et bienvenue au deuxième service du réchaud. Fin d'avant-midi sur les ondes de CFAC 88.3 à Sherbrooke et de Chiz, 94.3 à Québec. Vos radios universitaires préférées. Une autre semaine qui s'est passée à l'international, si on peut dire. Quoique, on n'est pas en reste, nous, avec les restants de l'ouragan Beryl, dépendamment à qui vous demandez. Beryl. Je me trompe pas, il y avait spécialiste des tempêtes tropicales comme ça qui disait qu'on allait en avoir 22 cette année. Ou autour de 22. Donc, sur les 26 noms, 22 seront utilisés si c'est pas qu'on va utiliser la deuxième liste. On se souviendra que pour nommer une tempête, il faut que justement elle passe sur Terre, ou du moins qu'elle soit marquante. Non pas que ce soit une trombe d'eau dans le milieu de l'océan. On peut utiliser le nom, sinon on le reporte à l'année suivante. Ou dans au fond de la liste, parce que les listes sont déjà prévues d'avance. Donc peut-être si le nom n'est pas utilisé, on le réutilise dans 3 ou 4 ans. Et les B ont été populaires pour qu'on se rende à Beryl. En fait. Petite blague, même si ce n'est pas drôle. Les nombreux égouts qui ont débordé parce que justement, dans certaines régions, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde, Texas notamment, c'est les équivalents de mois de pluie qui tombent en quelques heures. À Montréal, c'était des congestions et du trafic. Des gens qui sont restés dans le trafic environ 5 heures. Parce que les voies, ça passait pas, parce qu'on n'était pas capable de revirer le monde. C'est difficile de dévier du trafic pendant qu'il a lieu. En même temps, quand on sait qu'il annonce beaucoup de pluie, on essaie d'éviter les endroits problématiques, logiquement. Enfin bref. Pour rester dans le clin d'œil américain, ben, clin d'œil, c'est préoccupant. C'est préoccupant au sens où ben, on continue de demander la démission de Joe Biden. Il fait des conférences de presse pour se mettre lui-même dans le trouble. Il donne des entrevues pour se mettre lui-même dans le trouble dans un premier temps, essayer de prouver qu'il est encore digne d'être dans la fonction. Mais s'emparge sur le nom de Kamala Harris en disant « Donald Trump ». C'est sûr, ça regarde pas super bien. Mais en même temps, comme plusieurs le disent, pourquoi exiger la démission de Joe Biden parce qu'il se trompe sur des prénoms et des noms de famille quand Donald Trump se trompe lui aussi sur des prénoms et des noms de famille? En plus de dire des grossièretés, il est pas bon avec les noms lui non plus. Fait pourquoi on devrait seulement exiger la démission de Joe Biden quand on pourrait exiger aussi la démission de Donald Trump? La différence, c'est que du côté rouge, Donald Trump est tellement adulé qu'on lui pardonne peu importe. Tandis que Joe Biden, il a commencé sa conférence de presse en disant « vice-président Trump » et c'était terminé. peu importe ce qu'il allait dire après ça, les gens n'allaient que mettre l'emphase sur une erreur majeure, mais quand même. Donc pour les États-Unis, ça regarde mal, quoique. Un sondage cette semaine aurait donné Kamala Harris vainqueur sur Donald Trump, mais par 2 points seulement. Donc, on peut dire que c'est à peu près la marge d'erreur. Donc, ce n'est pas encore chose faite. On a des gens qui commencent à s'insérer à l'intérieur du débat. George Clooney, à la demande de personne, est apparu en disant... Ouais, monsieur Trump, monsieur... Ben, voilà, je me suis trompé moi aussi. Monsieur Biden devrait se désister. T'sais, s'il aime tant que ça les États-Unis, il devrait quitter lui avec pour laisser ça à quelqu'un d'autre. Mais qui est le quelqu'un d'autre? C'est surtout ça la question. Et ce n'est pas encore chose faite. Parce que oui, c'est à la discrétion de Joe Biden lui-même de décider s'il reste ou s'il quitte. Mais s'il quitte, ce sera pour être remplacé par qui? Et ce qui-là est encore extrêmement important parce que tant qu'on n'aura pas le nom qui va suivre, ou plutôt tant qu'on n'aura pas la confirmation qu'il y a un candidat solide et qui serait bon pour battre Donald Trump, évidemment qu'il n'y aura pas d'annonce faite en ce sens-là. Mais c'est aussi un risque d'attendre plus le temps avance, d'arriver finalement dernière minute et garrocher quelqu'un, ce qui ne serait pas mieux non plus. Mais après ça, est-ce qu'on est assez confiant de partir avec un seul sondage qui donnerait la victoire à Kamala Harris, malgré son impopularité? C'est un énorme coup de dé. Autant où, à la base, faire un débat avec Donald Trump était un coup de dé qui, finalement, a été perdant pour Joe Biden. Parce que, justement, il y avait une seule mission, c'était de ne pas s'enfarger dans une phrase ou se tromper de nom, et il s'est enfargé dans une phrase. L'extrait qu'on a retenu, c'est lui qui s'enfarge dans une phrase. Peu importe ce qu'il a dit après ça ou avant ça. Fait qu'autant c'est extrêmement sévère pour Joe Biden, autant on ferme les yeux sur peu importe ce qui se passe avec Trump, ce qui fait en sorte qu'en ce moment, les États-Unis sont en très grand questionnement de quoi faire. Surtout à se poser la question, est-ce qu'on donne la victoire à Donald Trump et on vit avec les conséquences pendant 4 ans? Ce qui ne serait pas nécessairement non plus à l'avantage des États-Unis. Mais il y a eu des renversements. On les a vus dans les dernières semaines. Ne serait-ce que la droite au Royaume-Uni qui a été tassée. On en a parlé la semaine dernière. Le nouveau premier ministre Keir Starmer de la gauche qui a remporté haut la main avec presque... Si c'est pas les 2/3 des sièges, ou très près du 2/3, à lui seul, c'est un renversement de pouvoir complètement. En France, on s'était quitté la semaine dernière, à la veille du deuxième tour des élections. Et finalement, l'émission de dimanche était juste avant le dévoilement des résultats. Je pensais que ça tombait à peu près en même temps, mais non, c'était juste avant, décalage horaire. Et surprise, l'alliance de la gauche et du centre a remporté, eux, leur pari, ont remporté leur coup de dé. Mais évidemment, ça se fera pas à cette heure sans conséquence. Puisque techniquement, il ne peut pas y avoir d'élection d'ici la prochaine année. Donc, ils devront former un gouvernement, peu importe ce qui va arriver. Souviendra qu'Emmanuel Macron avait dit qu'il ne voulait pas travailler avec la formation de Jean-Luc Mélenchon. Mais pourtant, il y a quand même une certaine partie du nouveau Front populaire, des 178 sièges obtenus, qui appartiennent, mélangés évidemment, mais qui appartiennent à la France insoumise, au Parti socialiste, aux écologistes et au Parti communiste français. Ils sont arrivés en première position. La coalition, elle est arrivée. Ouais. La coalition est arrivée. Le nouveau parti de gauche est arrivé. Enfin, on fait les conjugaisons comme du monde. Le nouveau Front populaire a obtenu l'avance. J'allais dire la majorité, mais c'est l'avance. Puisqu'ils sont à 178 sièges, tandis que le parti d'Emmanuel Macron a perdu 95 sièges et termine la course à 150. Seul prix de consolation, oui. Pour le Rassemblement national de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, c'est que le pourcentage a augmenté. Ils ont techniquement terminé avec 33% des intentions de vote, mais terminent la course à 142 sièges, une augmentation de 53 sièges. Donc, où on s'était quitté la fin de semaine dernière, c'était avec la possibilité que le Rassemblement national et Jordan Bardella obtiennent, ou plutôt frôlent, la majorité. Avec 280 sièges. Ou à peu près. Mais que la majorité absolue n'était pas tout à fait gagnée. À preuve, rendu au dévoilement des résultats, il n'y en était même pas proche. Au pourcentage, c'était bon. Mais au nombre de sièges, c'est là que ça s'est gâté. En très mauvais perdant, Jordan Bardella est allé d'une déclaration en disant que la coalition de gauche privait la France de le porter, lui, à titre de premier ministre. En tout cas, c'était la citation était quand même assez drôle de dire « Nos adversaires privent la France de nos réformes et de nos projets de loi. » C'est assez particulier. Mais bon, juste pour ça, ça valait la peine. Mais justement, cette alliance-là de gauche et de centre sera l'énorme casse-tête avec lequel devra composer notamment Emmanuel Macron et éventuellement celui qui occupera la chaise de premier ministre. Puisque Gabriel Attal a techniquement remis sa démission parce qu'il l'a perdue. Chose que l'on fait habituellement lorsque l'on perd son élection, même si son parti est porté au pouvoir, on annonce sa démission. On se souviendra de... Ben, on l'a vu énormément au Québec. Mais dans le cas d'Emmanuel Macron, il avait quand même le pouvoir de dire à Gabriel Attal « non, pas tout de suite ». Donc, pour l'instant, c'est toujours, en théorie, le gouvernement d'avant-élection qui est en place. Quoique, il y a quand même certains ministres qui ont été défaits dans ces élections-là. Donc, il y a des places à pourvoir de toute façon. Mais, comme, évidemment, le nouveau Front populaire l'a emporté, ou plutôt le plus de députés, chacun d'entre eux s'entend pour dire qu'il devrait être le chef. Jean-Luc Mélenchon en tête de file. Mais à l'intérieur même du Nouveau Front, les autres formations disent « Non, tout sauf Jean-Luc Mélenchon, s'il vous plaît. » Donc, l'espèce de tango qui va devoir se dérouler du côté français, d'essayer de convaincre tout le monde qu'on est capable de s'entendre, ce qui est assez difficile encore aujourd'hui, peu importe les formations, mais de se convaincre également qu'on est capable de gouverner au moins pour un an avant que les oppositions décident de demander la dissolution de la Chambre. De un. Mais après ça, quand on combine les 178 et les 150 sièges qui ont obtenu l'alliance entre le centre et la gauche, donc si un candidat de gauche était en avance dans une circonscription et que c'était une lutte à trois, on demandait aux gens d'Ensemble pour la République de se désister. Et inversement, si le centre était en avance sur le Nouveau Front populaire, on demandait au Nouveau Front populaire de quitter la course pour justement favoriser une course à deux et non pas à trois qui diviserait le vote d'un côté et qui donnerait le champ libre à la droite. Ça a fonctionné. Il y a eu énormément de votes stratégiques parce qu'au premier tour, il y en avait à peine un petit peu plus d'une trentaine qui avaient été élus au premier tour. Tout le reste s'est décidé au deuxième tour. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de gagnant clair. Mais au vote populaire, au premier tour, c'était quand même plus avantageux pour le Rassemblement national qui termine... En fait, non, qui est similaire. Puisqu'au premier tour, ils avaient obtenu 33 % des intentions de vote. Mais au deuxième tour, c'est allé à 37 %. Donc, même avec la tentative de barrage des oppositions, il y a quand même eu un surplus de votes du côté de la droite. Parce qu'il faut le dire aussi, le taux de participation pour cette campagne électorale-là a quand même été le meilleur taux de participation depuis 1997. En 1997, c'était 67,9% des gens qui étaient sortis voter. En 2024, 66,7, suivi par 2002 avec 64. Donc, on avait plus voté en 2024 qu'en 2002. Ce qui est réellement signe qu'on veut se faire entendre. Les deux tiers des Français sont allés voter. Donc, on voulait vraiment qu'il y ait du changement. Ça, c'est indéniable. Les deux dernières élections, 2017-2022, c'est 48 et 47% des Français qui sont allés voter, moins de la moitié. Là, on était à un peu plus de deux tiers. Donc, c'était un message clair qui était quand même envoyé à Emmanuel Macron. On n'est pas content. Correct. On lui a donné la deuxième place. Mais ce n'est pas lui qui a quand même la majorité. Il faut qu'il partage avec les autres. Et c'est peut-être la notion la plus importante, c'est de justement s'allier avec les autres formations pour essayer de gérer ça un peu comme du monde. On s'arrête là-dessus. Au retour, la suite du deuxième service de cette semaine. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIZ 94.3. Super plage, Isaac Harim avec Aéroport sur les ondes de CFAQ 88.3 de CHIZ 94.3. On est en 2020 cette semaine pour la musique. Autre personne dans l'actualité qui a eu des petits moments d'égarement, malheureusement... On l'avait oublié dans l'air. Donc, restant de la semaine dernière, ça a été quand même une drôle de journée. Pierre Paulus, sur l'heure du midi la semaine dernière, on est le 3 juillet, affirmait que si le Parti conservateur était porté au pouvoir et que le financement du tramway était attaché avant les prochaines élections fédérales, il n'allait pas avoir l'intention de mettre la hache dans le projet. Donc, si, comme on le rappelle, François Legault arrêtait de bretter avec le truc et qui demandait demain matin, c'est samedi, au moment d'enregistrer, s'il demandait lundi matin à Justin Trudeau, donnez-nous l'argent que vous aviez promis pour le tramway. C'est un projet de transport en commun, c'est bon pour l'environnement. Vous avez dit qu'il faut financer l'environnement. Let's go, on y va. Non, à la place, on va laisser passer l'été, on va laisser passer l'automne, on va attendre des consultations à l'hiver et il y aura des élections. Il n'y en aura pas de tramway. Ça, c'est le scénario pessimiste, mais François Legault serait capable. Donc, Pierre Poilievre disait que si jamais c'était déjà enclenché, on n'allait pas y toucher. Ce qui est une décision quand même assez raisonnable. Tu sais, c'était quand même une bonne citation. C'était pas si pire. Ça faisait du sens. Sauf que quelques heures plus tard, après s'être fait probablement engueuler par tout ce qui pouvait se faire engueuler, Pierre Paulus est ressorti en disant que, ouais, non, finalement, je me suis mal exprimé. Vous m'avez mal compris, peut-être. Pierre Poilievre a été clair. Au niveau du financement du projet du tramway, c'est non. Mais il reste que si dans les prochains mois, il y a des ententes qui sont signées, on ne défera pas. On ne défera pas ce qui a été fait, évidemment. On ne commencera pas à défaire des contrats donnés. Les pénalités seraient probablement plus dommageables. Mais oups! Pierre Paulus, qui avait donné un petit espoir à Québec de peut-être avoir enfin son tramway, s'est fait rebrouiller très certainement par ses collègues en disant « Voyons, tu t'en vas dire là. » C'est au gouvernement du Québec et de la ville de Québec qui doivent décider. En fin d'après-midi, Pierre Paulus a révisé sa position en disant « Un gouvernement conservateur n'investira pas, en majuscule, d'argent fédéral pour un tramway et ce, peu importe les promesses de Justin Trudeau, sans préciser ce qu'il adviendrait des sommes déjà consenties. Le cabinet du chef Poilievre n'a pas été plus clair. » Donc, au début de la journée, mystérieusement, il disait que si un contrat t'est donné, on va le laisser aller, c'est correct. Hop! Soudainement, ce n'était plus le cas. Un gouvernement conservateur ne va ni empêcher le projet, ni le financer. Déclaration du parti. Les autres niveaux de gouvernement sont libres de faire le projet sans ingérence et sans l'argent du fédéral. La déclaration qui a été envoyée aux journalistes. Donc, si on pose simplement la question, est-ce que si le tramway est en branle cet automne, est-ce que Pierre Poilievre va tirer la plug sur les contrats et payer les indemnités de laisser faire le projet? On ne le sait pas. Ni empêcher, mais ne le financera pas. En même temps, justement, s'il ne veut pas s'ingérer dans les compétences du Québec, il n'a pas le pouvoir de dire « oui, faites-le, non, faites-le pas ». Déjà là, ça va, mais de ne pas le financer, ça, ça peut être problématique, évidemment. Évidemment, ça n'a pas perdu de temps. Au début de la journée, quand Pierre Paulus avait dit que les conservateurs n'allaient pas briser les contrats, Bruno Marchand avait dit que c'était une bonne nouvelle. Ça presse, mais ça ne presse pas à cause d'une élection possible au fédéral. Ça presse parce que Québec en a de besoin. En a besoin, il n'y a pas de « en a besoin », a-t-il plaidé, rappelant la nécessité de réaliser le plan Cité Globale proposé. Sol Zanetti était également sorti en disant dites-lui qu'il envoie des messages plus clairs en parlant de Pierre Poilievre. Moi, j'espère que le financement du tramway soit réglé avant l'élection. Claude Villeneuve abondait dans le même sens et rappelle que le fédéral investit massivement en transports structurants en Ontario. Si jamais à Québec, on n'avait pas droit à cette même participation, il va falloir que les politiciens fédéraux viennent nous l'expliquer. Le traditionnel « si c'est bon pour un, c'est bon pour l'autre ». La solution pour Québec, selon les conservateurs, dans leur cas, ce serait des autobus seulement. Ces gens-là ne connaissent rien à la mobilité et font fi de toutes les études qui sont faites durant les 15 dernières années, selon Sol Zanetti. C'est une vraie insulte. Le débat, il a été fait et commence à se faire dire par Ottawa, nous autres, on pense que c'est des autobus, puis on va dire aux villes comment faire. Moi, c'est de l'ingérence que je n'accepte pas. Parce qu'effectivement, Pierre Poilievre l'a déjà dit, lui, c'est le troisième lien. Peu importe s'il est... Si les études sont pas bonnes, on va le faire quand même. Et on va mettre des autobus dessus. Peu importe ce que ça veut dire. Donc, comme plusieurs l'ont dit, et je pense qu'on l'avait dit aussi à l'émission, si François Legault était un peu wise, il irait demander l'argent du tramway à Justin Trudeau. S'assurerait que ces contrats-là soient pas défaisables ou que les contrats soient tellement blindés que de payer des pénalités, ce serait des montants astronomiques, que l'économie d'argent des conservateurs serait affectée de défaire les contrats. Et après ça, une fois que Pierre Poilievre est élu, il a demandé aussi l'argent du troisième lien. Comme ça, il serait content de pouvoir faire les deux projets, c'est-à-dire celui qui veut le troisième lien et celui qui aime un peu moins le tramway. Puis en plus, le fédéral absorberait les coûts de deux projets au Québec. Donc, il pourrait se vanter après ça de dire aux Québécois, « Regardez, j'ai fait payer le fédéral pour rendre tout le monde heureux avec et un tramway et un troisième lien. » Regardez comment on est bon, nous autres, à la CAQ, d'être capable de faire payer le fédéral. Fait que de 4 pierres 10 coups, il fait payer le fédéral, il dit qu'il est meilleur que le fédéral en étant uni au Canada. Il fait un troisième lien, il fait un tramway. Tout le monde est heureux à Québec parce qu'ils ont leur tramway et leur troisième lien. Et comme ça, François Legault gagne sa prochaine élection. Tu sais, ce serait simple. Mais non, vu qu'il n'aime pas un des deux projets, il préfère que ça brande dans le manche pour être certain qu'il ne se fasse pas. Ou en tout cas, que ça prenne bien du temps avant qu'il se fasse. J'exagère un peu. Mais des fois, c'est à se demander si c'est pas ça aussi. Mais il pourrait faire les deux. S'il se dépêche, il pourrait faire les deux projets. Et en plus, le fédéral contribuerait aux deux parce que ce ne serait pas le même fédéral. Fait qu'il serait gagnant. Prenez des notes. Ça s'arrête là-dessus. Retour à la suite du deuxième service de cette semaine. Vous écoutez le 88.3 à Sherbrooke, le 94.3 à Québec. Les Kinkeds, qu'on vient d'entendre en musique avec, comme par hasard, Tramway sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chuse. Hasard, on repassera, mais en tout cas, ça me faisait bien rire. Kinkeds, Simon et Henri, qu'on vient d'entendre en musique. International, parce que ça faisait un petit moment, du côté du Brésil. Deux nouvelles en provenance du Brésil. Le nouveau président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, a ordonné jeudi la semaine dernière le rétablissement d'une commission d'enquête sur les crimes politiques commis durant la dictature militaire entre 64 et 85. La commission spéciale sur les morts et disparus politiques, créée en 95, avait été dissoute par Jair Bolsonaro, son prédécesseur, à la fin de son mandat en décembre 2022. Le décret de Lula, publié jeudi au journal officiel, annule donc la décision de Bolsonaro et prévoit la reprise des activités. Le ministre des Droits de la Personne, Silvio Almeida, a salué dans un communiqué un pas important pour garantir la mémoire, la vérité et la justice. Le rétablissement de cette commission spéciale permettra, selon lui, de continuer le travail interrompu illégalement par l'administration précédente de recherche d'identification des morts et des disparus durant la dictature. De nombreux groupes de défense des droits de la personne réclamaient que le président rétablisse la commission spéciale. Donc, il y avait des pressions sur Lula. Et il avait été critiqué fin mars par cette organisation-là, notamment pour avoir annulé les commémorations du 60e anniversaire. Trouvez l'erreur du coup d'État qui a instauré le régime militaire alors que les hommages aux victimes étaient prévus. Le 31 mars 64, ce putsch avait déposé le président João Goulart. Lula, qui était un ancien syndicaliste qui a mené une grève historique en pleine dictature, a suscité la controverse en déclarant que le putsch de 64 faisait déjà partie de l'histoire. Je suis plus préoccupé par le coup d'État du 8 janvier 2023 que par celui de 64, avait-il affirmé. Donc, celui dans son pays, le 8 janvier, en disant que c'était plus préoccupant que des milliers de partisans de Jair Bolsonaro, défait à la présidentielle de 2022, avait saccagé les lieux de pouvoir à Brasilia, appelant à l'armée à déposer Lula une semaine après son investiture. Donc, Est-ce que c'est pour corriger le cafouillage d'avoir dit que 2023 était plus important que 64, que là, finalement, il revient sur la décision de l'autre en 22? Le timing est un peu drôle, c'est sûr, mais en même temps, si les travaux n'étaient pas terminés, c'est un peu normal qu'on décide de tout réinstaurer aussi. Parlant de Bolsonaro, la police brésilienne a décidé d'inculper l'ex-président pour blanchiment d'argent. La police fédérale a inculpé l'ancien président Jair Bolsonaro pour blanchiment d'argent et association avec des malfaiteurs, le tout en lien avec des diamants non déclarés que le leader d'extrême droite avait reçus d'Arabie Saoudite pendant son mandat, selon une source qui serait au courant des accusations. Une deuxième source a confirmé à l'acte d'accusation, mais sans préciser pour quels crimes spécifiques. Les deux responsables ont parlé sous le couvert de l'anonymat. La Cour suprême du Brésil n'a pas encore reçu le rapport de police accompagné de l'acte d'accusation. Une fois cela fait, le procureur général du pays, Paulo Gonet, analysera le document et décidera s'il y a lieu de porter plainte et de forcer Jair Bolsonaro à être jugé. Cet acte d'accusation applaudi par ses opposants, mais dénoncé comme une persécution politique par ses partisans, bien évidemment, fait monter considérablement les enjeux d'une série d'enquêtes sur l'ex-dirigeant controversé. Bolsonaro et ses avocats ont évidemment nié tout acte répréhensible lié à cette affaire, ainsi que de nombreux autres auxquels l'ancien président fait face. Il a déjà été inculpé pour avoir présumément ordonné à un assistant de falsifier son propre certificat de vaccination contre la COVID et on lui a reproché d'avoir fomenté le soulèvement, bien sûr, du 8 janvier 2023 pour inverser son successeur au pouvoir. Quand on disait qu'il y avait une parenté avec le Donald Trump du Sud, etc., aux États-Unis, c'était le 6. Au Brésil, c'était le 8. L'année dernière, la police fédérale a également accusé Bolsonaro d'avoir tenté d'introduire au pays des bijoux en diamant, encore, d'une valeur de 3 millions et d'avoir vendu deux montres de luxe. La police a déclaré en août que Bolsonaro avait reçu une somme de près de 70 000 piastres provenant de la vente de ces deux montres qu'il avait reçues en cadeau de l'Arabie Saoudite. Le Brésil exige que ses citoyens arrivant par avion de l'étranger déclarent les marchandises d'une valeur supérieure à 1 000 Pour tout montant supérieur à cette exonération, il paie une taxe égale à 50 % de leur valeur. Donc, si on dit que les deux montres ont été vendues 70 000, donc allons-y généreusement, 35 000 chacune des montres, ça veut dire une taxe de la moitié de 35 000. Donc, on est à 17 500 de taxes sur une montre, qui est quand même beaucoup. Mais en fait, il y en a deux. Fait que ça revient à ça, 35 000. C'est la moitié de 70 000. Fait que, techniquement, il perdait la vente d'une montre en taxes seulement. Surprise, il a essayé de passer en douce en disant qu'elle ne valait pas plus de 1 000 Vendu 35 000 les deux, supposément. Peut-être qu'il y en a une à 50, l'autre à 20. On a un total de 70. Les bijoux avaient été exonérés de taxes s'il avait été un cadeau de l'Arabie Saoudite, mais pas en tant que cadeau à Bolsonaro. Donc, si l'Arabie Saoudite donnait en cadeau des montres, là, techniquement, ça aurait été correct, mais comme là, c'est Bolsonaro lui-même qui les a récupérés pour son propre compte et non pas pour le Brésil au complet, genre. Là, à ce moment-là, c'est pas correct. L'enquête a montré qu'en juin 2022, l'un des principaux collaborateurs de Bolsonaro, Mauro Cid, a vendu une Rolex et une montre Patek Philippe à une boutique aux États-Unis pour un montant total de 68 000 $. Elles avaient été offertes par le gouvernement saoudien en 2019. Monsieur Cid a ensuite signé un accord de plaidoyer avec les autorités et a tout confirmé. Donc, il avait bel et bien fait des transactions aux États-Unis. Bolsonaro conserve, somme toute, une fidèle allégeance au sein de sa base politique. 185 000 personnes ont manifesté pour lui en sa faveur en février. Qualifié de prosecution politique. C'est des rédacteurs, en particulier les membres du parti politique de son rival, le président Lula da Silva, ont salué chacun l'avancée des enquêtes et ont appelé à plusieurs reprises à son arrestation. L'année dernière, le plus haut tribunal avait jugé que Bolsonaro avait abusé de ses pouvoirs présidentiels lors de sa campagne de réélection en 2022, ce qui le rendait éligible jusqu'en 2030. L'affaire portée l'affaire portait plutôt sur une réunion au cours de laquelle Bolsonaro avait utilisé des membres du gouvernement de la chaîne de télévision d'État et du palais de Brasilia pour informer les ambassadeurs étrangers que le système de vote électronique du pays était truqué. Donc, il avait influencé, pour ainsi dire. Voilà, donc il avait utilisé des membres du gouvernement pour dire à la chaîne d'État et au palais de Brasilia pour informer que, bon, le système de vote électronique était frauduleux. Bolsonaro devrait rencontrer le président OK, il était censé rencontrer Javier Milei en Argentine au cours d'une conférence entre conservateurs à Balneario, mais il n'y a comme pas de suite à ça. Eh bien. Donc, 8 ans d'inéligibilité pour abus de pouvoir en raison de fausses informations qu'il a disséminées sur le système de vote électronique avant sa défaite de 2022. Il avait été condamné le 30 juin 2023. Donc, il y a un an que la prochaine fois qu'il pourrait se présenter à une élection au Brésil, ce serait uniquement en 2030. Donc, 8 ans à ne pas pouvoir se présenter officiellement. On s'arrête là-dessus. Retour à la conclusion de l'émission de cette semaine. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Beat Sexu! Ah, ça a coupé sec. Beat Sexu! Qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz, avec Plumage, pour compléter l'année 2020 en musique. Ben, compléter. Il y a tellement de choses que j'ai tassées, finalement, de la liste de lecture, mais bon, c'est difficile de choisir uniquement 3 chansons par émission. Les suites tardives au cinéma, ça risque d'être probablement la nouvelle mode qu'il y aura du côté d'Hollywood pour les prochaines années, puisqu'on a appris que Shrek aurait un 5e volet à la trilogie déjà l'année prochaine, pendant que Histoire de jouets aura également un 5e volet à sa trilogie. Quand on parle de suite tardive, c'est qu'un film qui a eu lieu il y a 10, 15, 20, 25 ans a finalement une suite au cinéma, arrive finalement avec une suite au cinéma. On peut penser à notamment Tornade, sorti dans les années 90, qui aura une suite avec Tornade au pluriel. Cet été, Twister Twisters, pour la version anglaise, Sans Dessus Dessous, qui est dorénavant le plus gros succès, le succès le plus populaire de l'histoire des films Pixar. Important de le préciser pour la franchise Pixar de Disney, parce que reste encore La Reine des Neiges avec le film d'animation de Walt Disney qui a fait le plus d'argent. Puis c'est La Reine des Neiges 1 et 2. Dans le cas de Sans Dessus Dessous 2, en un mois seulement, ils ont réussi à coter la durée de vie complète des Incroyables 2. Incroyables 2 qui a eu ça aussi, un 10-15 ans entre les premiers et le deuxième volet, qui était une suite directe à la fin des événements du premier. Sans Dessus Dessous 2, on laisse passer à peu près un an et demi entre les deux films. Mais quand même, après une espèce de petit passage à vide pour Pixar, parce que beaucoup de films étaient sortis malgré la pandémie, mais uniquement sur Disney+, et non pas en salle. Les films sortis en salle n'avaient pas de succès non plus, et il y aurait peut-être eu un meilleur succès en étant sur Disney+. Bon, ben, dans le cas de Sans Dessus Dessous 2, c'est vraiment le retour au grand succès qu'avait déjà connu Pixar à une certaine époque. 1,2 milliard, c'est le chiffre enregistré au terme de la semaine, à 1,251 milliard, dépassant les Incroyables 2 à 1,243 milliard. Et ça, on est encore au premier mois. Ça fait seulement un mois que le film est sorti, et la fin de semaine dernière, c'était la première fin de semaine où le film tombait quand même en deuxième position. Mais en deuxième position, avec 500 000 au Québec, 30 millions au box-office nord-américain. Quand en ce moment, au box-office nord-américain, Il n'y a pas de grands d'autres films, grands autres franchises qui sont à l'affiche. C'est pas vrai. Les Mignons 4, Détestable moi 4, risquent de passer devant sans dessus-dessous, mais c'est à peu près tout. T'sais, c'est un autre dessin animé qui bat le principal qui était à l'affiche depuis un mois et qui a été numéro 1 depuis le 14 juin jusqu'au 30 juin. Fait que ces trois fins de semaine-là, ils ont été extrêmement rentables. 1 500 000, 1 800 000, 1 200 000 pour les trois fins de semaine. Et ça, c'est au Québec seulement. Au cumulatif, avec la fin de semaine du 5 au 7 juillet, on arrive à 7 775 000 uniquement pour 100 dessus-dessous au Québec. Quasiment 8 millions au Québec seulement. Probablement avec le reste de la semaine, on dépasse même ce 8 millions-là en vente de billets au Québec seulement. En Amérique du Nord, c'est du 155, 101, 57, 30 millions, cumulatif 533. Fait qu'avec le reste de la planète, c'est là qu'on arrive à 1,5 milliard. Donc, les suites tardives, et surtout si les suites sont bien faites, probablement que ça risque d'être la manne pour Hollywood dans les prochaines années. Et non pas faire le 1, le 2, le 3 qui suivent, mais bien d'aller chercher des vieilles franchises et de les ramener au goût du jour ou du moins les adapter. Un vendredi dingue, début 2000, aura une suite avec et Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan l'an prochain ou dans 2 ans. Quelle autre franchise qui a été annoncée? Ah, le Diable s'habille en Prada avec Meryl Streep. Elle a confirmé qu'elle allait être sur le projet. Emily Blunt également. Anna Tawai était encore en discussion pour son salaire. Mais techniquement, il y aura une suite à ce film-là aussi des années 2000, quelques 15-20 ans plus tard. Et règle générale, parce que justement, ces films-là sont un peu cultes, ou du moins ont eu un succès à ce moment-là, auront probablement des chances de faire un bon box-office. Mais dans les... d'un box-office... Mais... box-office, c'est autre chose. Box-office, mais si les suites sont aux attentes des gens. Parce que si, justement, les deux premières fins de semaine, les gens vont le voir et mettre des critiques négatives, le film va être dynamité dès les premiers instants. Dans le cas de Sans dessus-dessous 2, parce que les critiques étaient bonnes, après la première semaine, la semaine 2, ils ont fait plus d'argent au Québec qui plus est. Oui, il y a l'influence que c'était les vacances scolaires qui commençaient, mais c'est pas seulement ça, là, maintenant. Oui, le contexte estival aide que les gens sont allés un peu plus au cinéma, mais d'être capable de faire 400 000 de plus, de faire 1,8 million à sa deuxième fin de semaine, quand normalement, on est toujours supposé aller en descendant, parce que justement, les critiques sont bonnes, les gens sont allés voir la semaine 1 en disant « faut que tu ailles voir ça ». Les gens l'ont fait. Les gens sont allés voir le film et ça a fonctionné. Mais dans ce cas-ci, c'était une suite réussie. Et c'est toujours les dangers à ce genre de film-là. Autant Shrek 4 que Histoire de jouets 4, on peut avoir des réserves sur les deux films parce que justement, les trilogies étaient bonnes à 3. Le 4, coussi coussa, reste quand même que le 5... arrive bien sûr avec des attentes. Outre le fait que surtout Shrek a une popularité sur Internet, sur les réseaux sociaux, est-ce que l'histoire sera à la hauteur dans le cinquième volet, qui de toute façon avait été un peu prédit à la fin du Chapoté 2, Chapoté 2 qui est sorti plusieurs années après le Chapoté 1 d'ailleurs. Donc, dans la catégorie suite tardive, Chapoté 2 fonctionnait aussi parce que la suite était à la hauteur des attentes. Le deuxième volet du Chapoté était extrêmement bien fait. Ne serait-ce que justement, et ironiquement, on parle aussi d'angoisse dans le Chapoté que dans Sans dessus-dessous 2, autant que le personnage du loup dans le Chapoté 2 qui est extrêmement épeurant. Il fait peur pour vrai, ce loup-là. Et on comprend pourquoi le Chapoté a peur. Mais justement, parce que c'est bien fait, parce que le style d'animation était bien fait également, que la suite a été à la hauteur des attentes. Et le Chapoté 2 terminait avec le retour du Chapoté à fort fort lointain. Donc évidemment, on pouvait supposer qu'un Shrek allait être un moment donné à aller voir le jour. Mais on a quand même déjà confirmé que Mike Myers, Eddie Murphy et Cameron Diaz allaient reprendre leur rôle respectif de Shrek, Fiona et Lorne. Reste à voir, ça risque de fonctionner. Mais si les critiques sont pas bonnes, là, ça va être plus difficile. C'est là que ça se termine pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service, ici même sur les ondes de CFAQ et sur les ondes de Chiz. À la semaine prochaine. Salut!